bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz au micro de Radio UDFM avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Soyez les bienvenus et merci à tous d'être avec nous en direct jusqu'à 11h sur UDFM Radio, la radio en FM, fréquence 98.00, en web radio 98.fr, DAB+, pour toute l'Île-de-France et sur notre appli dans le monde entier. Aujourd'hui, mardi 25 avril, comme après chaque édition du Salon Effervescence, retour sur les trophées initiés par ce salon annuel et qui viennent récompenser ces entreprises lauréates grâce à leur innovation, créativité, fidélité. C'est le thème de notre émission ce matin et pour en parler, à l'économie en direct a le plaisir d'accueillir tout d'abord Emmanuel Détieux. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Très heureuse de votre venue dans nos studios, cher Emmanuel. Vous êtes chef de projet au CEVO, l'agence de développement et d'attractivité des territoires du Val d'Oise. Et depuis 2017, vous avez chaque année la lourde tâche d'être en charge de l'organisation des trophées effervescence pour son collectif d'organisation. Avec vous, nous retracerons les fondamentaux de ce salon et vous nous expliquerez votre méthode pour arriver chaque année à réunir autant de candidats en adéquation avec les différentes valeurs défendues par le salon effervescence. À vos côtés, Mithula Penchalingam et Niroshi Turai Raja. Ça va? J'ai bien dit?
C'est bien. Bonjour.
Bonjour Mithula, bonjour Niroshi, cofondatrice et dirigeante de Cake Master, lauréate du trophée de la création d'entreprise Michel Lefebvre. Ravie de vous recevoir sur notre plateau. Cake Master, une aventure qui vaut la peine d'être vécue. J'ai repris vos mots. Et c'est ce que nous allons découvrir avec vous dans quelques instants. À vos côtés, Denis Tellier. Bonjour Denis.
Bonjour.
Fondateur et dirigeant de la manufacture Tellier, lauréat du trophée Made in 95. Merci Denis d'avoir accepté mon invitation.
Je vous en prie.
Designer et fabricant de meubles sur mesure, vous nous raconterez votre parcours et ce défi de fabriquer aujourd'hui des meubles sur mesure.
Ok.
Franck Baruch, bonjour Franck.
Bonjour.
Gérant et PDG de trois sociétés, dont Aratis, lauréat du trophée de l'innovation. C'est un plaisir, Franck, de vous recevoir ce matin.
Partagé.
Spécialiste en équipement numérique, vous nous direz tout sur vos solutions clés en main, adaptées à plusieurs types d'activités.
Avec plaisir.
Et cerise sur le gâteau, Frédéric Enfray. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jacqueline.
Lauréat pour le groupe AGP Medicop du trophée des 10 ans qui a distingué l'exposant le plus fidèle. Merci Frédéric pour votre présence.
Merci à vous.
Nous revisiterons bien sûr le groupe AGP qui ne cesse, comme le salon d'effervescence, d'évoluer tout en revenant sur les conditions qu'il a fallu remplir au fil des ans pour mériter cette distinction. Bienvenue à tous, encore merci pour votre présence en direct sur le plateau de l'économie en direct et félicitations à chacun pour ces trophées. Alors aujourd'hui, pas d'instant saveur puisque notre expert culinaire est en vacances, donc on attaque directement. Alors, ces trophées du Salon Effervescence 2023, 10e édition, je rappelle, ils distinguent et mettent à l'honneur chaque année des femmes, des hommes et leurs entreprises qui développent des projets remarquables et innovants sur le territoire du Val d'Oise. Effervescence, un salon annuel, itinérant dans le Val d'Oise, cette année à Goussainville. Un projet, on peut dire, assez visionnaire à l'époque de sa création par Philippe Écran, son fondateur, puisqu'aujourd'hui, il fédère plus de 250 exposants sur une journée. Un salon devenu incontournable grâce à l'implication bénévole de nombreux partenaires et qui connaît un vif succès à chaque fois de plus en plus croissant. Emmanuel Détieux, alors vous êtes ici avec nous ce matin et encore une fois, je vous en remercie. Il vous revient la tâche donc de sélectionner ces candidats postulants à ces différents trophées. Juste peut-être avant de nous expliquer cette mission, je vous laisse vous présenter, Emmanuel.
Oui, merci. Je suis Emmanuel Détieux, je suis chef de projet au CEVO, donc l'agence de développement et d'attractivité des territoires du Val d'Oise. Et à ce titre, en fait, j'anime depuis maintenant 7 ans, 8 ans, le groupe, un petit sous-groupe de travail dans ce comité de pilotage élargi d'effervescence et je suis en charge donc de l'organisation des trophées effervescence. Alors les trophées, en fait, vous rappeliez que le salon a fêté cette année ses 10 ans. Les trophées existent depuis 2017 et ils ont été lancés pour finalement valoriser les projets, les produits et les services remarquables des entreprises valdoisiennes exposantes. Et l'idée, ça a été d'organiser un concours qui est ouvert à la fois aux exposants du Salon Effervescence, mais aussi aux membres des réseaux partenaires. Il faut rappeler, mais vous l'avez fait, que le Salon Effervescence, en fait, c'est le fruit d'un travail collectif entre les réseaux d'entreprises du Val d'Oise et l'ensemble des partenaires économiques qui se réunissent donc à peu près tous les 15 jours, 3 semaines pendant toute l'année pour organiser ce grand salon qui repose en fait sur le bénévolat et la bonne volonté, la bonne humeur de chacun. Donc ces trophées donc sont nés en 2017, tout d'abord avec un trophée de l'innovation. On a commencé petit, hein, un seul trophée qui récompensait une innovation de produits, de procédés. Et donc l'année suivante, en fait, les trophées, un autre trophée est venu s'ajouter, c'est celui du Made in 95, le fameux label que toutes les entreprises du Val d'Oise se doivent d'avoir. Et donc c'est en 2018, un deuxième trophée est venu s'ajouter pour récompenser en fait une entreprise qui est engagée pour l'emploi et la production locale en Val d'Oise. Et puis en 2019, nous avons ajouté un troisième trophée, le trophée création d'entreprise Michel Lefebvre, qui vient récompenser une jeune entreprise de moins de 3 ans qui est exemplaire dans sa croissance, etc. Et puis cette année, l'anniversaire des 10 ans nous a conduit à créer un prix spécial, le prix spécial 10 ans, qui récompensait en fait l'entreprise exposante dont la fidélité et la croissance ont été remarquables au cours de ces 10 dernières années. Voilà un petit peu brossé les trophées. Alors j'ai fait plus que me présenter, j'ai présenté également un petit peu les trophées. Mais voilà ce que je pouvais vous dire.
Très bien. Mais écoutez, oui, c'était très clair. Et donc, il vous revient donc cette tâche, vous, parce que des trophées, c'est bien, mais il faut des candidats pour avoir des lauréats. Donc, à partir d'une certaine période dans l'année, vous vous mettez en chasse, si je puis dire, de ces candidats.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, généralement, le salon se déroule au printemps de chaque année et on lance en fait les appels à candidats, enfin les appels à exposants aux environs de fin décembre, dans la période de fin d'année. Oui. On lance en fait les invitations et on ouvre en fait les inscriptions aux exposants.
On sait donc où le salon va se passer.
On sait déjà
où la date.
Généralement, on le sait presque une année à l'avance, mais on lance vraiment les inscriptions et la communication en fin d'année ou au tout début de l'année. Et à partir du moment en fait où les exposants sont inscrits, ils vont recevoir un code, etc., un accès à leur espace exposant sur lequel ils pourront déposer leur dossier de candidature. Donc parallèlement à toute la communication que nous faisons pour attirer des exposants, nous lançons également toute une page et tout un règlement et un formulaire d'inscription pour que les entreprises exposantes, je répète, candidatent à un de ces trophées. Donc le concours est ouvert vraiment aux entreprises exposantes et également aux membres des réseaux partenaires sur inscription, et à partir de là, donc notre vivier, à partir du vivier d'exposants et du vivier des membres des réseaux d'entreprises, on reçoit entre 20 et 25 formulaires d'inscription, et Donc à partir de ces inscriptions, on examine, on vérifie qu'ils répondent aux critères qui ont été édictés dans le règlement. Et donc commence en fait le processus de sélection.
À vous de les répertorier et puis de considérer que cet exposant va être plus dans telle catégorie ou une
voilà.
autre.
Voilà, oui. Il postule en fait à un des trophées. Donc suivant leur activité, suivant leur projet, etc. Ils vont postuler à l'un ou l'autre des trophées. Et à partir de là, nous, on vérifie qu'ils répondent bien aux critères. Et puis, s'ils le répondent bien aux critères, à ce moment-là, ils vont passer devant le fameux jury du salon Effervescence.
Oui, ça, c'est l'ultime étape avant d'être choisi. Mais donc, pour vous, c'est une mission qui doit générer une certaine densité de rendez-vous.
Alors, des rendez-vous, disons que ça nécessite un travail en amont, en effet, puisque on doit à la fois communiquer sur ce salon, faire des relances, etc. Et puis ensuite, on doit examiner tous ces dossiers, bien comprendre ce que souhaite l'entreprise. Donc, ça nécessite pas forcément des rendez-vous en physique, mais ça nécessite aussi certains appels, certaines recherches d'informations, etc., de vérification bien en amont, pour qu'on assure en fait que l'entreprise répond bien aux critères et du règlement et qu'on présente en fait des entreprises qui sont sérieuses
tous les critères oui
voilà qui répondent bien aux critères voilà.
Et donc c'est vous qui êtes également en charge du jury.
Alors nous sommes en charge également avec le petit groupe de travail qui prépare les trophées. Donc ce petit groupe de travail est constitué aussi de membres des réseaux partenaires du salon. Donc on est un petit groupe qui travaillons ensemble pendant l'année et donc on est en charge en effet de réunir en fait ce jury. Alors le jury est composé en fait des présidents des réseaux partenaires du salon Effervescence. Donc au total ils sont entre 25 et 30 oui. Responsables de réseaux d'entreprises qui participent au jury final. Donc ce jury, étant donné qu'il y a trois trophées, il y a trois jurys. Donc constitué d'une entre 8 et 10 personnes qui se réunissent le jour J, le matin, et donc qui auditent les candidats les uns après les autres et qui font leur sélection sur la base des critères que l'on a élaboré.
Voilà. Donc et c'est un pitch de combien de minutes?
Alors le pitch dure 3 minutes suivi de 3 minutes de questions-réponses. Donc on invite les candidats à se préparer avant le passage devant les jurys parce qu'il y a toujours un petit de trac et d'appréhension, mais généralement ça se passe bien. Enfin, vous demanderez aux candidats, ce seront eux les mieux placés pour vous répondre. Mais en effet, c'est très timé. Donc les jurys se réunissent et auditionnent les candidats entre 10h et midi. Le jour du salon, puis il y a des délibérations et les prix sont remis en tout début d'après-midi par les officiels qui ouvrent et qui viennent nous honorer de leur présence ce jour-là.
Et il y en avait beaucoup cette année, hein. On était gâtés au salon Effervescence.
Tout à fait, à la hauteur du salon.
Du salon, absolument. Avant de faire une pause, je voudrais vous poser la question à chacun. Alors donc vous avez candidaté rapidement, Franck Baruch.
Oui.
Vous avez candidaté, vous avez su, vous aviez déjà fait le salon Effervescence.
Non, oui, j'avais été déjà participant. Oui. Par contre, justement, après une rencontre avec Emmanuel, j'ai pu participer, donc j'ai pu faire candidature. Et ensuite, je suis passé devant le jury, qui est un moment assez mémorable.
Ouais, ça
on
vous
sort
a bien
de
réussi.
Sa zone de confort. C'est bien.
Frédéric Enfrebe.
Alors moi, j'ai pas candidaté
oui,
du
pas
tout.
Candidaté,
voilà,
donc
c'est ça. Et à l'inverse, j'ai participé à un jury, donc pas sur le mien, mais en remplaçant Michel Jonker sur le salon d'Imagine 95.
Vrai. Oui, puisque je vous avais interviewé ce jour-là. Denis Tellier.
Moi, j'ai fait le salon aussi l'année dernière, mais je n'avais pas participé au concours. Et à l'époque, on m'avait dit, mais si, tu devrais le faire.
Pourquoi pas?
Tu devrais essayer. Et donc, du coup, cette année, je l'ai fait. Et puis
bon,
voilà.
Bah voilà, vous avez eu raison d'écouter le
Exactement.
Conseil.
Ouais.
Et vous, Mithula et Niroshi?
Pour le coup, nous, c'est notre toute première participation au salon. Et on a postulé parce qu'on a reçu justement un mail en disant qu'il y avait des trophées, les candidatures qui étaient ouvertes. Et je crois que je l'ai vu la veille, mais finalement ça s'est prolongé.
Ah oui.
Donc on a fait
le fil.
Et puis on s'est dit, de toute façon, si on tente rien, on n'a rien. Donc on a postulé.
Bien, écoutez, vous avez bien fait également.
Ouais.
Merci Emmanuel Détieux pour cet exposé. Puis bravo pour votre sens de la sélection qui permet au jury du Salon Effervescence d'avoir à établir. Je pense un choix toujours difficile, mais pour sélectionner ces lauréats. Merci à vous. On va continuer à parler dans quelques instants de ces trophées et découvrir tous les lauréats du dernier Salon Effervescence juste après la pause. À tout de suite.
Tout ça dans un objet, encore faut-il qu'il soit bien chargé. Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le faux mot, les dangers et tout ce qui me fait me sentir comme une merde ou presque. C'est fou de se dire qu'il y a tout ça dans un objet. J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire, je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Je me demande comment faisaient les gens avant pour se donner rendez-vous. Moi j'ai besoin de checker 1000 fois mon écran pour être sûr de mon coup. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet, amour à des dangers, dans un objet, tout ça dans un objet, tout ça dans un objet, je peux pas m'en empêcher, dans un objet. Tous les soirs t'évites le vide, tu regardes 5 minutes, 2 heures plus tard tes mains transpirent et t'as les yeux qui brûlent. T'as rencontré un tas d'amis que t'as jamais vu pour de vrai. Mais à l'heure où on donne tous notre avis, surtout aujourd'hui, qu'est-ce qui est vrai? T'écoutes les notes en fois deux, mais quand on fait, ça dure 10 minutes. T'as pas tant de choses à dire, je crois que tu veux juste qu'on t'écoute. Tu te demandes comment faisaient les gens avant pour organiser un date. Toi, tu zoomes des heures sans rien faire derrière l'écran, et puis tu te sens bête. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. C'est pas ma faute, je culpabilise quand je regarde la vie des autres. Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains, moi t'avions activé au moins jusqu'à demain. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour et danger, dans un objet. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. On peut pas s'en empêcher, dans un objet.
Amour, haine et danger par Angèle. Vous êtes bien sur IDFM 98, sur Radio IDFM. Merci d'être avec nous pour cette spéciale trophée du Salon Effervescence en compagnie de mes 5 invités, Emmanuel Détieu, chef de projet au CEVO, Mithula Penchaligam et Niroshi Turei-Raja, cofondatrice et dirigeante de Cake Master, Denis Tellier, fondateur et dirigeant de la Manufacture Tellier, Franck Baruch, gérant et PDG de Aratis, Frédéric Enfray, PDG du groupe AGP Medicob. Mithula Penchaligam et Niroshi Turei-Raja. Donc, vous êtes lauréate du trophée de la création d'entreprise Michel Lefebvre. Alors, toutes mes félicitations à nouveau pour Merci. Cette mise en lumière hein, qui ne cesse de grandir pour Cake Master. Parlez-nous de cette création d'entreprise.
Alors, Cake Master, c'est des kits de pâtisserie.
Donc, c'est Niroshi qui
c'est
parle.
C'est Niroshi, exactement. Oui. Donc, Cake Master, c'est des kits de pâtisserie. Donc, nous, on propose vraiment un atelier pâtisserie en kit pour refaire à la maison, notamment les gâteaux qu'on a l'habitude d'acheter de façon industrielle. Par exemple, le fameux napolitain.
Oui.
On propose de le faire maison avec des produits français et des produits de qualité professionnelle.
Et comment est née cette aventure ?
Alors, l'idée a émergé pendant le premier confinement, donc été 2020. Donc, un peu comme tous les Français, on a voulu mettre la main à la pâte. Et nous, on a un papa qui était un ancien cuisinier pâtissier. Donc, on a toujours fait des gâteaux avec lui quand il était petit. Et en fait, quand on a voulu les refaire, on s'est rendu compte qu'on n'était pas très doués en pâtisserie. Et donc, on a créé des kits pour justement les débutants un peu comme nous qui veulent faire des gâteaux autres que le gâteau au chocolat ou un gâteau yaourt banal.
C'est-à-dire que malgré un papa pâtissier, vous ne faisiez pas de gâteaux.
On les faisait avec lui, donc oui. Ça a marché très bien. Mais en fait, quand on a voulu les faire toutes seules, on n'avait pas toujours la bonne recette, on n'avait pas l'astuce du pâtissier, ou pas les bons ingrédients, ou pas le bon ustensile. Donc dans le kit que nous on propose, il y a les bons ingrédients, il y a la bonne dose, il y a la bonne recette, et surtout les ustensiles qui vont avec.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a le moule, qu'est-ce qu'il y a dans le kit ?
Il y a les moules, il y a la spatule, une poche à douille s'il le faut, une douille, on met même le papier sulfurisé, le support. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est aussi les ingrédients qu'on propose. Donc c'est les ingrédients qu'utilisent les chefs pâtissiers. Donc en termes de qualité, le goût y est toujours et on garantit vraiment un résultat inratable.
Très bien. Donc quand on a acheté un premier kit, on a quand même déjà une base. On a les moules, on a les spatules et tout ça. Donc oui. Si on veut racheter juste une recette, c'est possible ?
Oui, c'est possible parce que là, on a développé justement un format qu'on appelle recharge. Mm-hmm. Donc, on peut racheter le kit sans les moules et sans les ustensiles.
Sans tout le matériel.
Exactement.
Donc, il y a d'abord eu l'idée, puis la mise en œuvre. Comment vous y êtes prise ?
Du coup, je reprends.
Alors, Mithula, oui.
C'est Mithula. Comment on s'y est prise ? Du coup, l'idée est arrivée assez rapidement. Et nous, c'est vrai qu'on aime bien vite tester les choses pour être sûr que ça marche ou ça marche pas. Donc, on s'est fait notre premier kit un peu à la maison, chez nous, dans notre garage. Et on a sollicité, en fait, notre premier réseau. En leur disant, tout notre premier réseau savait qu'on était nul en pâtisserie. Donc on leur a dit, on va vous créer un kit et on vous parie que vous allez réussir un napolitain, un gâteau qui paraît compliqué parce que c'est sur plusieurs étages, mais au final, en soi, il est assez simple. Donc on a lancé un défi à notre premier réseau et ce défi a été relevé par plus de 40 personnes. Personne l'a raté et du coup, on a vu qu'il y avait un bon
ça
truc.
Ça a validé votre idée.
C'est ça. Et ensuite, on a lancé une page internet. Où on a recruté 15 personnes qu'on ne connaissait pas pour qu'elles puissent tester le kit et nous donner leur avis sans filtre. Et c'était vraiment une première version. On avait des moules en aluminium, on avait un conditionnement qui était hyper différent. Mmh. Et on a pu améliorer en fait le produit grâce à tous ces retours-là, toutes les étapes, toutes les explications qu'on a rajoutées. Et donc on est vraiment parti en fait d'un prototype et puis on l'a amélioré au fur et à mesure. Et on continue à l'améliorer. Par exemple, la recharge, c'est quelque chose qu'on a eu après notre passage à la télé, où beaucoup de gens en fait aiment bien le concept, mais le catégoriser comme un cadeau, par exemple, et auraient voulu pour peut-être l'avoir pour soi, pour une consommation assez régulière de napolitain ou d'autres gâteaux. Donc, on a créé un format où il y a juste des ingrédients pour que ça puisse être comme une aide à la pâtisserie, oui. Mais sur des gâteaux plus compliqués.
Avoir ça dans son placard et on a un gâteau à faire, toc toc,
exactement.
Ça très vite. Mais donc, il a fallu trouver des fournisseurs pour les produits, les emballages. Il y a eu toute une logistique à mettre en route, hein, à partir du moment où vous avez vraiment voulu passer au stade supérieur.
Oui, c'est ça. Et en fait, nous, instinctivement, on a cherché des fournisseurs locaux parce que, à notre échelle aussi, c'est ce qui est le plus simple. Et au final, c'est devenu notre force parce que, du coup, dans 95, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de choses. Voilà, il y a un moulin à farine, il y a une usine, il y a des redistributeurs d'ingrédients de pâtisserie hyper qualitatifs. Et puis, en fait, il y a tout un écosystème qu'on a découvert au fur et à mesure en intégrant des réseaux et puis en allant chercher nous-mêmes en toquant à des portes. Donc quasiment 90% de ce qu'on propose vient du 95.
Alors, où est-ce qu'on peut les trouver, ces kits, aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est vendu en ligne sur cakemaster.fr.
D'accord.
Donc, c'est la plupart de nos ventes, on les fait en ligne sur du e-commerce.
Oui.
On commence à se développer dans des épiceries fines. Et puis on vend aussi à travers des entreprises qui nous achètent nos kits pour les reproposer à leurs salariés.
C'est ça, vous avez des nouveaux distributeurs ?
Oui, c'est ça.
Et donc, vous parliez de la télévision. Vous êtes passé dans l'émission Qui veut être mon associé, c'est ça ?
Oui, c'est ça, exactement.
Hiroshi.
On est passé le 1er février sur Qui veut être mon associé.
Et vous aviez été sollicité. C'est vous qui avez demandé à passer dans l'émission. Comment ça s'est passé ?
Alors, on a été contacté par la production de M6.
Oui.
Donc, c'était en juin 2022. On était en pleine campagne de crowdfunding sur Ulule. Donc, on avait fait un kit signature en collaboration avec le chef Thierry Marx.
Oui, oui.
Pour faire un sneakers géant à la maison. Donc, on avait fait la recette avec lui. Et donc, c'était en campagne de crowdfunding. Et M6 nous a repérés via notre vidéo de campagne. Et il nous a contactés pour qu'on puisse participer à l'émission. Et après, on a passé pas mal de casting, enfin pas mal de tests, avant d'avoir la réponse qu'on était sélectionnés pour le tournage.
Vous étiez combien de postulants ce jour-là ?
On était 350 peu près pour 30 places.
30 places, d'accord, bravo. Merci. Et donc, qu'est-ce que ça a généré, ce passage à la télévision ?
Ça a généré déjà beaucoup de... Déjà, nous, ça nous a forcé à accélérer sur pas mal de choses, comme la logistique, juste consolider un peu tous les process qu'on avait pour se préparer justement à passer devant la télé, devant 2 millions de personnes et être en capacité d'absorber une forte demande, chose qu'on ne faisait pas avant. On faisait nous-mêmes la livraison des colis, c'était très artisanal.
Oui, vous étiez, oui.
Et là, du coup, on a externalisé notre logistique, on travaille avec un acteur du 95 aussi qui s'occupe de nos kits, de les expédier. Donc ça nous a aussi allégé sur ce côté-là pour se concentrer sur vraiment du coup de l'opérationnel, on va dire commercial. Et puis après c'est de la crédibilité. Et puis pour nous, ça a été une énorme étude de marché au niveau national, parce que jusqu'à maintenant, on a développé notre clientèle, on va dire organiquement, et puis c'était une clientèle très ciblée. Là, le fait d'avoir tout le monde, ça a permis de voir aussi qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît le moins, et puis peut-être aussi avoir un produit qui est plus accessible au grand public et du coup développer une autre gamme de produits. Et puis ça nous a ouvert aussi d'autres opportunités qu'on n'avait pas forcément vues.
Bien sûr.
Des canaux de distribution qu'on n'envisageait pas, comme les entreprises, par exemple.
Oui.
Nous, on voyait essentiellement ça comme un produit, on va dire, B2C initialement. Et c'est vrai que là, on se développe beaucoup plus en B2B. Donc, finalement, que du positif. Beaucoup de stress, mais, mais finalement, c'est du stress positif.
C'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est un parmi les canaux que vous allez exploiter, il y a les PME, TPE qui vont acheter vos produits pour des cadeaux, pour offrir des cadeaux.
Ouais, c'est ça. Donc là, nos kits sont appréciés par les entreprises pour des cadeaux collaborateurs, même des cadeaux clients pour les fins d'année, au lieu d'offrir comme d'habitude du champagne ou un panier gourmand. Ça fait un kit, c'est une activité ludique, donc c'est aussi un moment de partage en famille. Et on propose aussi des activités team building, où on se déplace, soit nos pâtissiers partenaires, pour faire des activités team building, donc en équipe de 10 à 15 personnes.
Oui, pour fédérer une équipe au sein d'une entreprise.
C'est ça, et du coup, nous, on a une approche vraiment ludique, donc ça change un peu des ateliers pâtisserie, on va dire classiques.
Classiques.
Donc c'est plus vraiment ambiance un peu plus fun, plus décontractée, on va dire, de la pâtisserie.
Alors, combien coûte un kit ?
Alors, nos kits sur Internet...
Le kit napolitain.
C'est 22 euros.
Très bien. Donc, les ingrédients et tout le matériel.
ingrédients, donc avec le matériel, c'est 24 euros. Mmh. Et sans le matériel, c'est 22 euros.
D'accord, très bien. Ouais. Et si on veut la recharge ?
La recharge, elle est à 50. Enfin, quand tu disais sans matériel, c'est sans la spatule, mais il y a quand même les moules. Et la recharge, elle est à 12,50. Donc, c'est tous les ingrédients et puis une recette.
Très bien. Donc, aujourd'hui, vous proposez combien de recettes ?
Aujourd'hui, on a 6 recettes actuellement disponibles sur notre site internet. Mmh. Et puis, on sort une recette tous les 2 mois, adaptée à la saison. Donc là, on avait sorti une recette pour Pâques. Et l'idée, c'est de renouveler pour Noël, pour Halloween, pour la Chandeleur.
Pour chaque événement festif. Et c'est là où vous faites appel à des pâtissiers partenaires ?
Oui, c'est ça. L'idée, c'est que nous, on a une base de données de gâteaux qu'on aimerait proposer, des gâteaux qu'on trouve pas en pâtisserie, boulangerie-pâtisserie traditionnelle, parce que c'est notre positionnement. Et ensuite, donc, on cherche un pâtissier qui nous aide à développer la recette. Et puis après, nous, avec notre équipe, on vient la simplifier et la rendre inratable. Donc, on la retourne dans tous les sens pour essayer de comprendre, où est-ce que l'erreur peut arriver. Et en pâtisserie, c'est vite arrivé.
Vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise ?
Aujourd'hui, on est 5. On est à une alternante et puis 2 stagiaires. Donc on se développe petit à petit et puis on espère qu'on va recruter bientôt.
Voilà. Et vous commencez à vous toucher un salaire ? Vous payez aujourd'hui ?
Non, on ne se paye pas encore. C'est l'objectif de l'année 2023.
Oui.
Aujourd'hui, on fait beaucoup. En fait, on a une activité très saisonnière. Mmh. Et tout l'enjeu pour nous, c'est de trouver une source de revenus régulière pour pouvoir justement envisager de se payer régulièrement. Et donc, on est en train d'essayer de trouver le bon business model pour consolider tout ça.
Allez, alors ce prix, ce trophée création d'entreprise, qu'est-ce que vous en avez retiré ?
Nous, en fait, il est arrivé à un bon moment, je pense. En fait, ça nous a remotivés et ça nous a vraiment, enfin, c'est arrivé au bon moment.
Prouver que vous étiez sur la bonne voie.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. De continuer les efforts parce que même si on grandit, que il y a des bonnes opportunités qui arrivent, c'est toujours, il y a toujours des remises en question. On se demande toujours, est-ce qu'on va sur le bon chemin, parce qu'on sait qu'on peut prendre plusieurs chemins, mais du coup, c'est difficile de savoir lequel est le bon. Surtout que nous, c'est notre première entreprise aussi, donc on forcément fait des heures et on essaye d'en faire le moins, mais en fait, on sait jamais. C'est quoi ? Il y a pas de bonne réponse, donc il faut se tromper. Et voilà. Enfin, la télé, c'est vrai que nous, ça nous a ramené un énorme stress. Et du coup, on a dû gérer pas mal de choses et on s'est beaucoup, beaucoup remis en question. Et le salon, au final, ça nous a vraiment fait du bien.
Oui, ça nous a fait du bien. Rebooster.
Ouais, pour rebooster, même si on n'avait pas gagné le trophée, enfin, le fait d'avoir rencontré plein de gens, et puis c'est des finales au fur et à mesure, ça fait pas longtemps qu'on est lancé, mais on revoit des visages.
Oui, c'est ça, vous avez rencontré plein de.
C'est ça. Ouais, c'est comme une petite famille du 95, quoi.
Complètement. Oui, c'est vrai, c'est l'impression que ça donne, hein, ce salon, c'est d'être dans une grande famille. Alors, ce trophée, on n'en a pas parlé avec Emmanuel Détieux. C'est quoi ce trophée ? Décrivez-le-nous.
Alors, c'est le trophée de la création d'entreprise Michel Lefebvre. Mmh. Je crois que c'était l'ancien directeur d'Initiative 95.
C'est ça.
Président. De Initiative 95. Donc, en plus, c'est d'autant plus symbolique parce que nous, on a été financés par ce réseau-là.
Très bien.
Il y a un an, justement, pour rendre notre boîte un peu plus jolie et pouvoir la commercialiser.
C'était un beau symbole.
C'était un bon symbole pour nous.
Le trophée, peut-être, Emmanuel Détieux, un mot sur ces trophées ?
Alors, les trophées en eux-mêmes, en fait, sont de magnifiques objets qui ont été créés par les étudiants du lycée Le Corbusier à Cormeil en Parisie, qui font donc depuis quelques années, qui réalisent eux-mêmes ces trophées. Donc ce sont de très belles pièces en bois qui sont sculptées par ces étudiants, donc que l'on remercie une nouvelle fois de leur créativité et de leur contribution.
Oui, c'est un bel objet. J'avais eu l'occasion de recevoir le proviseur de Le Corbusier et il avait apporté un trophée, donc c'est un très bel objet. Mitula et Niroshi, vous avez une actualité à nous annoncer pour la Foire de Paris.
Oui, exactement. Du coup, nous, on aura un stand à la Foire de Paris, donc dans le village de création française, du 27 avril au 8 mai. Donc on sera au pavillon 2.2, stand J27.
Très bien, et je crois qu'on pourra goûter toutes vos recettes et puis découvrir vos kits.
Tous les jours, donc vous pouvez goûter tous les gâteaux qu'on propose. Et ensuite, si vous succombez, vous pouvez acheter un kit.
Voilà, et donc vous prévoyez de recruter un commercial
c'est
également.
But, ouais, pour,
donc
pour
si vous voulez faire une annonce, allez-y à la radio.
Alors on cherche un profil super dynamique, super motivé, qui aime les défis, qui veut attaquer un marché qui est ouvert et où il y a zéro acteur. Et donc si vous voulez nous rejoindre, bah on serait ravis de vous écouter. Donc on a une adresse mail à laquelle vous pouvez nous contacter,
oui.
C'est contact@cakemaster.fr.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'est une adresse qui se retrouvera bien sûr sur le podcast. Merci Mithula et Niroshi pour votre témoignage et puis bravo pour ces challenges. Nouvelle pause avant de retrouver mes trois autres invités, eux aussi lauréats d'un trophée vert effervescence. Restez avec nous, on en parle tous ensemble.
France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Jean-Jacques Goldman, J'irai au bout de mes rêves, un classique dont on ne se lasse pas. Vous nous rejoignez peut-être dans l'économie en direct sur IDFM Radio. Ce matin, focus sur les trophées de la 10e édition du Salon Effervescence et leurs lauréats, tous présents dans nos studios. Emmanuel Détieux nous accompagne pour ces trophées, chef de projet Osevo, Mithula Penchalingam et Niroshi Ture-Raja, cofondatrice et dirigeante de Cake Master, lauréate du trophée de la création d'entreprise Michel Lefebvre que nous venons d'entendre, Denis Tellier, fondateur et dirigeant de la manufacture Tellier, lauréat du trophée Made in 95, Franck Baruch, gérant et PDG de Aratis, lauréat du trophée de l'innovation. Frédéric Anfray, lauréat pour le groupe AGP Madicop du trophée des 10 ans et qui a récompensé l'exposition le plus fidèle. Denis Tellier, je me tourne à présent vers vous, donc oui. Fondateur et dirigeant de la manufacture Tellier.
Oui.
Denis, nous avons eu le plaisir de faire connaissance sur le salon Effervescence à Goussainville. Et je suis ravie de pouvoir poursuivre cet échange avec vous ce matin. Alors, je vous laisse vous présenter auprès de nos auditrices et auditeurs, Denis Tellier.
Alors, la manufacture Tellier, c'est fabricant, je suis concepteur et fabricant de meubles sur mesure dans un style industriel.
Oui.
C'est-à-dire que si vous souhaitez un meuble que vous ne trouvez pas dans le commerce parce que c'est pas la bonne dimension, c'est pas la bonne hauteur, c'est pas la bonne couleur, c'est pas les bons matériaux, etc., etc., et que finalement, bah, la seule solution, c'est de le faire sur mesure. Venez avec un bout de dessin, venez avec une photo que vous avez piquée sur Pinterest ou n'importe quoi. Vous m'en parlez. Moi, je le refais systématiquement en 3D pour avoir les bonnes dimensions et le meilleur rendu possible pour voir si c'est pas trop justement ou trop bas, parce que les gens s'imaginent parfois des meubles qui pourraient correspondre, mais il n'y a pas forcément l'aspect pratique. Et à partir de là, si le visuel 3D fonctionne, je peux le réaliser sur mesure.
Très bien. Donc, c'est une activité que vous avez démarrée, je vois, il y a 16 mois.
Exactement.
Donc, c'est assez récent.
Exactement.
Et qu'est-ce qui a été à l'origine de cette création?
Alors, la manufacture Tellier, c'est l'histoire d'un déclic.
Oui.
En fait, puisque c'est une reconversion, donc elle est relativement récente, 16 mois, comme vous avez dit. Avant, j'ai fait un peu plus de 20 ans en contrôle de gestion.
D'accord, voilà, oui, tout à fait. Strict. Donc, à 360 degrés.
Voilà, ça n'a rien à voir. J'ai fait donc du salariat pendant très longtemps, puis j'ai décidé de devenir contrôleur indépendant. Et à partir de là, je faisais des missions de management de transition. Et entre les missions, du coup, je bricolais. J'ai toujours bricolé.
Vous avez toujours aimé bricoler.
Voilà, c'est ma passion, c'est mon dada, comme on dit. Et puis, un beau jour, dans l'atelier, je me suis rendu compte que j'avais passé quasiment 10 heures sans m'arrêter, sans manger. Voilà. Je suis descendu le matin et le soir, j'ai relevé la tête. Il est déjà cette heure-là. Et je me suis dit, mais du coup, si je passe autant de temps à bricoler et à faire des choses qui me plaisent, c'est vraiment ça que je veux faire.
Oui,
c'est vraiment
oui,
ça.
Oui.
Et à partir de ce déclic-là, il s'est passé un an pour que la petite graine plantée puisse grandir.
Pour que ça se décante.
Et voilà, pour me dire, j'avais mon petit singe sur l'épaule qui me disait de contrôleur de gestion, mais rêve pas, ça marchera pas, c'est pas possible. C'est un business model où tu vas t'attaquer à la fois à des menuisiers qui travaillent le bois, à des gens qui travaillent le métal. Toi, tu vas être un petit peu entre les deux, ça va être compliqué. En plus, t'as pas une formation de design, etc. Et puis, heureusement, j'avais un autre petit singe qui me disait, mais si, mais en réalité, regarde bien ta vie, toujours été créatif, même dans ton métier de contrôleur de gestion, tu as toujours créé beaucoup de tableaux, tu as toujours créé beaucoup de choses en fait. Et ce qui te faisait plaisir dans ce métier, c'était la création. Une fois que j'avais compris ça, je dis, ok, je suis créatif, c'est une partie de ma nature, mais j'ai toujours aussi adoré utiliser mes mains. Et le fait de bricoler, c'était vraiment utiliser ces deux parties-là. Et je me suis dit, j'approchais la cinquantaine. Et je me suis dit, si je le fais, je le fais maintenant ou je le ferai jamais.
Oui, c'est ça.
Donc, je me suis jeté à l'eau. Donc, ça a pris un an. Et puis, mais après, la création d'un logo, la création d'un site, etc. Et effectivement, ça a été lancé en décembre 2021. Et ensuite, comme toute création d'entreprise, c'est se faire connaître un maximum, diffuser. Et l'année dernière, j'avais fait déjà le salon Effervescence, que j'avais déjà fait il y a très longtemps, à l'époque où j'étais indépendant en contrôle gestion, ça a été un fiasco total. Mais là, j'y suis retourné vraiment avec une autre étiquette.
Oui.
Et j'avais préparé un petit peu l'astuce, c'est qu'à l'époque, tout le monde, même encore cette année, tout le monde avait les mêmes manches debout. Et moi, j'ai dit, en fait, je viens avec le mien.
Le mien.
Je fais un métier qui est visuel, faut que les gens puissent voir ce que je suis capable de faire. Donc j'ai viré celui qui était officiel, et j'ai mis le mien à la place. Voilà, c'était mon petit côté,
oui.
Et je l'ai refait cette année en douce, vite fait. Et ma foi, tant mieux, ça reste
oui.
Un bon plan.
Oui, oui. Mais donc, il a fallu quand même, ça, ce que vous faites aujourd'hui, ça nécessite de l'espace, du matériel. Donc, alors, il a fallu vous financer.
Alors, aujourd'hui, je travaille toujours chez moi, dans mon sous-sol. J'ai préféré investir dans des machines un petit peu plus professionnelles.
Sophistiquées, oui.
Un petit peu plus sophistiquées, qui m'offraient des possibilités de réalisation. Et donc aujourd'hui, je travaille toujours chez moi. Mon sous-sol, c'est mon atelier, qui est divisé en deux, une partie bois, une partie acier, parce que les étincelles et le bois, c'est pas très fun. Et du coup... j'avais le choix, on va dire stratégiquement, de faire un showroom, de construire des meubles, faire un showroom, et puis d'attendre entre guillemets le client. Et j'ai préféré rester en 100% digital. C'est pour ça que je me suis formé sur le dessin 3D. Pour proposer les images les plus fidèles possibles en 3D.
Oui, que vos futurs clients aient tout de suite une idée de ce qu'ils vont avoir.
Exactement, la meilleure visualisation. Et s'ils me font des photos de leur intérieur, je peux inclure le meuble 3D dans leur intérieur. Et du coup, pour en revenir au financement, j'ai pas aujourd'hui les moyens financiers de prendre un atelier à côté, ni un showroom. Donc, j'ai pas de meubles à présenter, excepté les miens, parce que moi, dès que le meuble il est fait, qu'il est vendu, il est chez le client.
Bien sûr, vous le livrez immédiatement.
Si l'entreprise se développe, après effectivement, la prochaine étape, c'est trouver un atelier.
Passer à une étape supérieure. Vos clients, qui sont-ils ?
Des particuliers. Les particuliers, j'ai eu des professionnels aussi. Mon premier réflexe, c'est de dire particulier, mais en fait, c'est 50-50. J'ai une viticultrice qui m'a demandé des manches debout, des sièges aussi, le tout réalisé dans des tonneaux. J'ai deux particuliers, un bureau, un secrétaire bureau aussi qui était spécifique, une personne qui voulait ne pas avoir de bureau chez elle. Donc en fait, extérieurement, ça ressemble à une armoire, mais qui s'ouvre et qui se permet de travailler comme un bureau. J'ai beaucoup de demandes de tables. Donc le côté industriel, c'est certes ça, c'est un gros plateau en bois avec un piétement en acier. Voilà, c'est très mélangé. C'est autant industriel, professionnel, pardon, que particulier.
Et peut-être que vous pourriez être repéré par des enseignes de mobilier qui pourraient être intéressées par vos productions.
Alors il y a plusieurs choses en fait qui se bousculent stratégiquement une fois que l'entreprise est lancée. Il y a puisque je n'ai pas les capacités de production énormes, soit je m'oriente en tant que designer pour effectivement vendre du design et ensuite démarcher des fabricants de meubles qui vont produire à ma place, c'est une possibilité, soit je fais des petites pièces comme des supports de téléphone par exemple, des choses comme ça, ou des tablettes de bain, des choses qui sont beaucoup plus facilement transportables, que je propose dans des boutiques éphémères. C'est un autre axe de développement.
Oui. Enfin, après, vous êtes ouvert. Tous les champs sont possibles.
Exactement. J'ai été contacté hier, pour vous donner l'information plus fraîche que fraîche. Oui. J'ai été contacté hier par une personne qui, elle, est designer et qui souhaite fabriquer des objets, puis des meubles.
Très bien.
Et donc, du coup, c'est l'idée, c'est un partenariat. C'est qu'elle, elle dessine des choses et elle me demande si moi, je peux les réaliser. Je suis complètement ouvert à ce genre de choses. Moi, ça me plaît complètement parce que je reste quand même dans de la création. Et c'est pas parce que le dessin n'est pas de moi que je peux pas prendre du plaisir à le créer.
Bien sûr. Donc, très épanoui par rapport au contrôleur de gestion.
Il n'y a pas photo.
Très bien. Vos besoins, donc, c'est vous faire connaître.
Exactement. Aujourd'hui, je suis au lancement, quand une entreprise croît, elle croît tout doucement, jusqu'à un moment donné où il y a une inflexion et ça progresse beaucoup. Et je suis arrivé à ce niveau-là et il me manque le petit coup de pouce. Et donc le salon Effervescence avec ce prix, ça a été un vrai coup de pouce pour moi.
Une vraie reconnaissance.
De reconnaissance, de publicité. J'en suis là, à ce petit moment charnière, où est-ce que je décolle, où est-ce que finalement je vais encore stagner un petit peu. Voilà. Un autre point, pour reparler justement de ce point charnière, c'est au niveau du salon Effervescence, quand on est créateur, on se pose toujours la question, à un moment donné, est-ce que ce que je dessine, ce qui me plaît, moi, plaît aux autres ?
Bien sûr.
C'est une vraie question. Et quand on a plein de retours positifs, il dit « Ah, c'est pas mal, c'est bien, c'est ça, j'aime bien ce petit truc-là, etc. » Ça fait super plaisir, ça remotive énormément. Et c'est là où on se dit « Ok, ce que je fais, ça plaît. »
Ça plaît, oui, c'est
reste
énorme.
Reste maintenant à le faire connaître pour que chacun puisse prendre et adapter ce qu'il veut vraiment.
Très bien. Bah, écoutez, j'espère que cette émission sera aussi un coup de pouce pour vous faire connaître.
Bah, j'espère aussi.
Que faut-il faire pour vous contacter ?
Alors, c'est très simple. Tout passe par le site internet manufacturetellier.com.
Très bien.
Dessus, vous avez le numéro de téléphone, l'adresse mail, etc. Vous avez les choses qui ont été faites. Il est malheureusement pas à jour parce que j'ai pas encore eu le temps de mettre les deux dernières réalisations. Mais il va être très bientôt.
Ça va se faire.
Ça va se faire dans la semaine. Là.
Vous êtes situé à quel physiquement ?
Je suis situé à Montigny-lès-Cormeilles.
D'accord. Ah oui, vous l'aviez dit. Très bien. Ben merci beaucoup Denis Tellier pour ce partage et puis encore félicitations pour votre trophée Made in 95 puisque vraiment là c'est vraiment du Made in 95 hein, Emmanuel pour le coup.
Ouais. On ne peut pas
faire mieux.
On ne peut pas faire mieux, en effet.
Voilà, l'acier provient de soit Saint-Ouen, soit de Goussainville. Le bois, c'est soit à côté, pas très loin, à Épinay, ou à Conflans-Sainte-Honorine.
Oui, en plus des circuits courts. Donc, vous êtes complètement dans la mouvance du Made in 95.
C'est ça.
Bravo. On vous souhaite toute la réussite hein, pour la manufacture Tellier. Francky, je propose une courte pause là pour pouvoir donner la parole à Franck Baruche.
Partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98FM.
Donc si vous nous rejoignez, c'est peut-être dans l'économie en direct sur IDFM Radio, nous parlons du salon Effervescence et des lauréats des différents trophées initiés par ce salon. Et à présent, je me tourne vers vous, Franck Baruche. Donc vous êtes ingénieur avec un MBA, chef d'entreprise, gérant de Mobitix, Aratech et Laru. Et depuis 2010, donc c'était une évidence pour vous de choisir cette voie du chef d'entreprise ?
Non, ça ne compte pas pour moi. Ça s'est fait un peu progressivement.
Oui.
Comme tout ingénieur, j'ai fait un peu les métiers traditionnels de R&D, chef de projet, puis directeur achat, puis directeur de site, en France et en Amérique. Et c'est progressivement que c'est venu. C'est pas, je suis pas né comme certains.
En disant, je veux absolument être chef d'entreprise.
Voilà, qui veulent directement être gérant ou bien, comme on le voit là, des jeunes brillants. Non, je suis vraiment né, enfin plutôt avec une culture d'ingénieur et le fait d'avoir un peu exercé 4-5 métiers auparavant et m'avoir permis d'acquérir une vision un peu globale de l'industrie, aussi bien même commerciale à travers les achats que production, que R&D. Vers 40 ans à peu près, j'ai dit tiens, ça me semble évident maintenant que je dois quitter un peu le monde du salarié, le monde et créer un peu quelque chose.
D'accord. Voilà. Pourtant, ce qui semble vous passionner, c'est la création de produits technologiques.
On peut quand même créer quand on est salarié.
Quand on est
dans une équipe de R&D où il y a une trentaine d'ingénieurs, on est quand même dans un monde de création. Quand on est aux achats et qu'on est constamment en train d'auditer, de négocier, de définir un peu les plans de production, on est quand même dans la création. Sauf que là, on n'a pas la même liberté, on n'a pas la même amplitude, on n'a pas la même vision à long terme et à court terme. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mélangé un peu l'expérience et la personnalité.
Alors parlez-nous de cette fabrication d'écrans dynamiques. puisque alors, c'est la c'est alors, votre dernier bébé.
Oui, c'est le dernier, mais en fin de compte, en tant que gérant, c'est la première fois que on met la main à la pâte en termes de création.
Oui.
Juste pour expliquer un peu l'origine, cette création fait partie de la société Aratis. Donc cette société, je l'ai créée il y a 13 ans. Elle est dédiée depuis 13 ans à trois secteurs qui sont l'audiovisuel, l'informatique et le mobilier innovant. Et dans le monde de l'audiovisuel, on est qu'on pourrait appeler un intégrateur. C'est-à-dire qu'on intègre, on fabrique, on conçoit, on fabrique des salles audiovisuelles. Notamment, on met des écrans interactifs, donc beaucoup pour l'éducation, pour les collectivités, et beaucoup d'écrans d'affichage dynamique. C'est-à-dire qu'on équipe dans des bureaux d'accueil des écrans. Et comme on le fait en tant qu'intégrateur, depuis des années, je m'apercevais qu'il y avait cette possibilité, enfin, il y avait ce manque de solutions, non pas pour les salles d'attente, dans les salles publiques, mais pour les magasins. Et l'idée est venue de fabriquer, de concevoir une solution qui permettrait de modifier, de révolutionner, sans être trop prétentieux, de révolutionner le monde des vitrines, de changer les vitrines et de leur apporter de l'affichage dynamique, c'est-à-dire un affichage qui s'articule autour d'écrans, de petits écrans, des écrans de 15 pouces, de 20 pouces, qui vont être modulables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les déplacer sans avoir aucune manipulation électrique à effectuer, grâce à un brevet qu'on a sorti en novembre, et de pouvoir révolutionner donc les zones de chalandise et de créer une multitude de petits écrans afin de communiquer vers l'extérieur. C'est ça un petit peu l'idée de ce produit qu'on a appelé Wheezy, qui est un produit de vitrine, et qui se veut évidemment technologique, puisqu'on intègre et de l'informatique, et de l'électronique, et de la mécanique, et qui aujourd'hui est donc dans cette deuxième phase, et qui nous a permis de remporter ce trophée, puisqu'on a aujourd'hui fini le deuxième prototype, donc on a réellement une solution qui est opérationnelle, même si elle n'est pas en phase de production, et voilà à peu près le schéma.
Et donc, la cible de vos clients, quelle est-elle?
Alors, la cible, c'est...
Tout... Parce que vous parlez de vitrine, est-ce qu'il y a plutôt des activités qui vont
alors,
être plus...
Évidemment, on en voit une tous, il suffit de se promener, surtout en France, où il y a beaucoup d'agences immobilières.
Ça.
Dans une agence immobilière, il peut y avoir 15, 20, 30, 40 affiches, qui soient des affiches papier, soit des affiches papier mais rétro-éclairées, mais qui sont statiques. Statique dans deux aspects. Premièrement, l'affiche ne bouge pas elle-même et le contenu ne bouge pas.
Ne bouge pas.
C'est exactement l'opposé de ce qu'on a, puisque là, on aurait une affiche qui est elle-même contient plusieurs informations, mais en plus, ces écrans-là, on les déplace manuellement, on les déplace d'un endroit à l'autre. Donc, évidemment, ce qui vient à l'idée, c'est de penser à l'agence immobilière, mais en réalité, absolument.
N'importe qui peut.
Vous êtes une boulangerie, vous voulez mettre deux petits écrans parce que vous avez un espace minime dans votre vitrine, vous voulez présenter une nouvelle pâte, vous voulez présenter un nouveau gâteau, vous voulez présenter votre savoir-faire, vous êtes un coiffeur, vous voulez présenter un nouveau produit, ou au contraire, une nouvelle coupe, vous êtes un parfumeur, vous voulez présenter un nouveau process ou un nouveau parfum, et même dans les agences, même dans les centres commerciaux, on peut aussi l'imaginer. Le champ, il est
très
gigantesque.
Large. Vous avez fait comme ça une étude de marché pour savoir qui pouvait être intéressé?
Alors, oui et non.
Oui.
Oui et non. L'étude de marché, oui, on a regardé évidemment le nombre qu'il pouvait y avoir. D'abord, on a regardé si ce produit-là existait.
Oui, bien sûr.
En dehors du brevet qu'on a pu développer, déjà, si le concept existait, il y a quelques produits qui se rapproche, mais évidemment on a d'abord regardé un peu l'originalité du produit, et ensuite l'étude de marché elle est assez simple, puisque le produit n'existe pas, la solution n'existe pas, le nombre de vitrines en France, l'étude de marché est vite fait pour voir un petit peu le nombre de vitrines qu'on peut avoir selon les secteurs, il y a pléthore, et on en est là aujourd'hui.
D'accord. Donc pour passer à la phase supérieure, vous envisagez de faire une levée de fonds?
Alors on a deux phases. Aujourd'hui, on travaille uniquement en CAF, en autofinancement. Donc c'est la société Aratis qui permet et qui a permis depuis 2 ans, puisque le projet a nécessité à peu près 150 000 euros d'autofinancement, qui a permis d'aboutir à la création de ces trois prototypes, aussi bien hardware, software et mécanique. Et aujourd'hui, nous allons candidater à un projet d'InnovUp, un projet mis en place par la région. Ça, c'est la première phase. En fonction de ça, l'objectif à très court terme, c'est d'arriver à faire une levée de fonds. Une première levée de fonds.
Vous envisagez quel montant?
Alors sur cette après InnovUp, le montant serait de 1,2 million d'euros.
D'accord.
Pour l'objectif est assez simple, c'est devenir un véritable fabricant français de solutions d'écran d'affichage dynamique.
Être leader.
Être déjà innovant, c'est-à-dire de proposer ce produit-là, de défricher le marché et ensuite évidemment d'être le leader puisque pour l'instant on aurait un coup d'avance.
Très bien. Bon, ben, donc une affaire à suivre.
Avec plaisir.
Vous avez des offres d'emploi à proposer, Franck ?
Oui, enfin, on a une offre d'emploi unique, enfin, dans la partie industrielle, donc tout ce qui est ingénieur industrialisation, justement pour ce produit-là, qui va être conjointe avec le concours, enfin, justement, la mise en place du concours sur lequel on veut candidater. Ça, c'est le plus important. Mm-hmm. Et après, un ingénieur qualité.
Très bien. Ce trophée de l'innovation, c'est quand même un signal fort. On regarde vos concurrents, puis voir les investisseurs.
Oui, bah, ça nous permet d'être visible.
C'est ça.
Puisque jusqu'à là, on est visible dans notre secteur d'activité de prédilection, Aratis, mais là, c'est plus, on est plus visible auprès de l'éducation, des marchés publics et autres. Là, on reste dans le même secteur industriel, mais pas dans le même public. Donc là, c'est effectivement une très belle opportunité, d'une part, pour voir si l'invention avait quelque part un certain ressenti, si vraiment les gens qui voyaient cette invention pouvaient se transposer dedans, et deuxièmement, d'être visible. Donc effectivement, on commence à avoir des touches
très bien.
Qu'on n'avait pas il y a à peine 2 mois.
Et alors je me disais, bon, on n'a pas encore entendu Frédéric Canfray, mais ça ne va pas tarder. Il peut y avoir une synergie entre tous ces lauréats avec les produits que vous proposez les uns les autres, il me semble. Denis peut faire des meubles sur mesure, vous pouvez mettre des écrans dans les vitrines de Cake Master, enfin voilà.
Oui, c'est tout à fait vrai. J'avais pensé pour la partie gâteau, effectivement.
Et la partie gâteau pour les offrir.
Rien de mieux que sur un écran de mettre un produit qui est innovant.
Ouais,
donc
ouais,
effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait, pour les, par exemple,
moi ça me va.
Denis Tellier.
Il peut faire les gâteaux, moi je les mange, on partage.
Ah ben j'ai quelqu'un à la maison qui dit la même chose. Merci Franck Baruch.
Merci.
Et puis donc si des auditrices auditeurs veulent faire appel à vous pour comment on peut vous joindre?
Bon, sur le site donc www.aratis.fr ou sur info@aratis.fr et là je serai ravi d'y répondre.
Bah écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Franck Baruch et puis bravo pour cette innovation. Donc une vraie pause mais courte quand même, Francky, s'il vous plaît.
Laisser passer l'orage. Comment me raisonner? Ça devrait passer avec l'âge, les années. Je prends de l'expérience sans voir son incidence. Mais moi le cap, je suis cap de le tenir, de le garder. Moi le cap, je suis cap de le chérir, de l'embrasser. Alors montre-moi la voie, montre-moi les sentiers que je dois battre pour ça. Car moi j'ai des heures qui tapent, des heures qui cognent, j'ai comme tous mes détails qui en font des tonnes, j'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent, j'ai comme, j'ai des heures qui tapent, des heures qui cognent, j'ai comme tous mes détails qui en font des tonnes, j'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent, j'ai comme. Comment équilibrer l'excès, en éviter les effets, déréglés depuis trop longtemps. Je ne sais pas quel syndrome maquille mes hématomes. Pourtant ça frappe pour obéir à mes pensées. La soupape semble laisser l'air s'échapper. Alors montre-moi la voie, montre-moi les sentiers que je dois battre pour ça. Car moi j'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent, j'ai comme tous mes détails qui en font des tonnes, j'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent, j'ai comme. Des heures qui cognent, j'ai comme tous mes détails qui en font des tonnes, j'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent, j'ai comme. Moi je tremble, ça m'échappe. Quand est-ce que je m'évade? Dis-moi que c'est pour bientôt, je perds mon temps. J'ai des heures qui tapent un peu trop sans faire semblant. Je tremble.
Dernière partie de notre émission, une heure et demie, on peut penser que ça passe vite, mais que c'est long, mais ça passe vite en revanche. Donc je suis en compagnie de tous les lauréats du Salon Effervescence. Et Emmanuel Détieu, qui est à l'origine de ces trophées, enfin de ces candidats de ces lauréats qui ont candidaté, avec moi Mithula Penchalingam, Niroshi Ture Raja de Cake Master, Denis Tellier de la manufacture Tellier, Franck Baruch de la société Aratis et Frédéric Enfray du groupe AGP, président du groupe AGP. Alors Frédéric Enfray, vous avez plusieurs casquettes. Aujourd'hui, je reçois donc le PDG du groupe AGP, lauréat du prix de l'exposant le plus fidèle depuis la création du Salon Effervescence. Frédéric, vous saviez que vous étiez cet exposant-là ?
Non, alors c'était une grosse surprise parce que d'abord je ne savais pas que ce prix existait et puis juste avant le repas à midi, on m'a dit faut que tu sois à 14h à côté du podium parce qu'il va y avoir la remise des trophées. J'ai pas postulé donc et on me dit non mais il y a le trophée des 10 ans. Je dis 10 ans, mais j'ai pas participé moi personnellement à 10 ans. Et en fait, l'ensemble des sociétés du groupe ont participé aux 10 années. Et notamment les 3 premières années qui manquent, puisque moi personnellement j'ai participé à partir de la. J'en ai fait 7, donc à partir de la 4e. Et les 3 premières ont été faites par Eracib qui a intégré le groupe l'année dernière. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais les 10 ans. Sans ça, je comprenais pas le compteur. Hein, voilà. Oui. Alors, plusieurs remarques, il y a plein de choses qui me parlent dans tous les gens qui sont autour de nous. Oui. D'abord parce que le groupe a été créé en entreprise individuelle en 77, donc on est dans la 46e année, dans le Val d'Oise, par un monsieur qui avait juste un CAP d'ajusteur tourneur et qui n'avait pas d'argent, mais qui était brillant au niveau commercial, sentant les marchés et autres. Et aujourd'hui, on est 110 personnes, donc c'est ce que je vous souhaite.
À tous.
Voilà. Mon voisin de droite, j'ai un point commun avec lui, c'est que je viens aussi du monde de la finance et à 50 ans, j'avais envie de changer de métier. Donc ça me parle aussi. Et mon voisin de gauche, on a des activités qui sont à la marge communes et on est aussi sur des projets de développement de nouvelles activités qui vont nous nécessiter de l'argent sur des nouveaux métiers. Donc ça me parle aussi. Voilà.
Vous venez de faire le lien parfait de votre évolution.
Le dernier point avec Emmanuel, c'est le Salon Effervescence. Quand j'ai repris la tête du groupe en 2012, le groupe était présent dans des groupements professionnels techniques, mais absolument pas présent dans aucun réseau du Val d'Oise. Et dans un premier temps, je me suis inscrit à différents réseaux en disant non, je ferai le tri après parce que je sais pas lesquels et je connaissais quasiment personne. Et finalement, je suis resté à peu près dans tous. Le Salon Effervescence, première fois que j'y suis allé, je pense que c'est un peu comme tout le monde. On se demande bien ce qu'on fait là, tout le monde se connaît et puis on connaît pas grand monde, donc on se sent un peu tout seul dans son coin.
Exactement.
Les gens viennent vous voir. La deuxième année, on retrouve ceux qui étaient un peu perdus comme nous. Et au fil du temps, on fait son réseau. Et vraiment le Val d'Oise pour ça est quand même assez exceptionnel. Mmh. Ça ressemble plus à la province où les gens se connaissent assez facilement et n'ont pas nécessairement besoin de tout ça parce que les territoires sont plus petits. Mais sans l'effervescence, c'est vraiment une super idée quoi.
Oui, oui.
On peut féliciter Philippe Écran avec lequel je suis administrateur au BDF aussi de cette idée parce qu'elle a été vraiment brillante.
Oui, c'est une belle idée.
Et le principe un peu déroutant au début du stand unique et du fait qu'il n'y ait pas de visiteurs le matin et qu'on est entre nous. Pour la petite histoire, le salon a été fait aussi en Vendée et comme on a un établissement secondaire en Vendée, on l'a fait là-bas. Et alors, c'était très drôle parce que les gens comprenaient pas qu'il fallait pas rester sur son stand et qu'il fallait faire le tour. C'était un salon inversé. On a un stand pour montrer qu'on est là, mais le but du jeu, c'est de se bouger. Les gens viennent pas à nous. Et c'est très marrant parce que aujourd'hui, sur le salon Effervescence dans le Val d'Oise, ça bouge en permanence. Mais installer ça ailleurs, c'est une nouvelle démarche.
Oui.
Et les gens comprenaient pas très bien ce qu'ils venaient faire là et comment ça fonctionnait. Donc c'est voilà. Donc
et d'où la nécessité, je crois, d'être au moins deux sur le stand, parce que moi j'avais un IDFM avait j'avais un stand, mais à un moment, j'étais toute seule, j'étais jamais sur mon stand parce que j'arrêtais pas de.
Alors, c'est aussi un salon qui est devenu extrêmement intéressant parce que j'allais dire, il y a toutes les têtes de gondole de tous les réseaux et institutions possibles qui passent. Donc, c'est quand même à peu près le seul moment où on arrive à croiser tout le monde.
C'est vrai.
Et où les gens sont relativement disponibles. Hein, même les élus, même tout ça, ils sont relativement disponibles. Bon, il y a toujours un peu la queue pour les attraper, mais ils sont quand même relativement disponibles. Et je pense qu'il n'y a aucun endroit où, en un temps si court, on voit autant de monde. Alors, on ne signe pas d'affaires, on ne fait pas de business en tant que tel, mais comme beaucoup de salons, on fait des contacts et on crée son petit réseau au fur et à mesure.
C'est un bon réseautage.
Voilà, donc je trouve vraiment que c'est... En plus, tous les ans, on pousse des gens à venir et qui, à la fin, viennent pour nous faire plaisir en disant... qu'est-ce que je vais m'ennuyer, j'ai autre chose à faire, et les gens sont contents du salon. Voilà.
Et cette année, donc, il était, je l'ai juste dit au début, mais il était à Goussainville.
Oui.
Et c'était un bel endroit. Hein,
Alors c'était un bel endroit, une très belle organisation. On n'a pas assez souligné l'enthousiasme et l'accueil des jeunes qui étaient là, qui étaient vraiment très 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 disponibles et vraiment bien. Hein. L'équipe d'accueil était vraiment top parce que je pense qu'ils n'avaient pas trop l'habitude. Et voilà, on ne l'a pas assez souligné, ça, je crois. Voilà.
Oui, on peut les remercier une nouvelle fois et remercier également l'accueil que nous a réservé la ville de Goussainville.
Oui, c'était un accueil formidable. Oui,
ah ouais, non. Alors, il y avait aussi autre chose. On avait un cadre qui était relativement sombre en bois. Et cette année, le salon effervescence a changé ses manches debout, qui étaient d'habitude étaient des tables métalliques, dont quand on en fait beaucoup, on finit par avoir une grosse collection puisqu'on la récupérait à chaque fois. Et là, c'était des manches debout en carton. Donc au début, quand on entend ça, on dit mais qu'est-ce que ça va être, ça va pas tenir. Et en fait, dans cette salle sombre, le blanc ressortait. C'était vraiment assez beau, quoi.
Oui, voilà. Oui, oui.
C'est
un plus. Emmanuel Détieu, vous disiez que pour mériter ce trophée qu'a reçu Frédéric Anfray, il a fallu quand même répondre à certaines contraintes, c'est ça ?
Contraintes, disons plutôt critères.
Oui.
On avait, en fait, on a créé ce trophée spécialement pour les 10 ans. Et les critères principaux, en fait, étaient la fidélité au salon, donc le nombre de participations au salon, et également la croissance de l'entreprise que l'on souhaitait mettre en avant.
Mettre à l'honneur.
Et donc la société que préside Frédéric remplissait ces critères, et c'est pour ça qu'on l'a... On l'a découvert de ce trophée.
Alors, faut surtout pas changer les critères parce que ça nous permettra aussi de postuler pour les 20 ans.
Voilà, exactement.
Oui, parce que là, vous avez fait l'acquisition de d'autres entreprises, Frédéric, je crois.
Alors, on a repris une activité fin 2021 d'une activité de mobilier qui est intégrée à de mobilier industriel qui est intégrée à Madicob. Mm-hmm. Donc, c'est une activité spéciale. On fait des armatures du simulateur de vol du Rafale. On fait des pupitres pour piloter des drones. On fait tout un tas de choses comme ça, donc c'est vraiment des demandes très spécifiques avec des clients très particuliers, Thales ou autres, donc toujours des produits d'ingénieurs en fait. Voilà. Alors on sait aussi faire des choses plus simples, mais parce qu'il faut aussi faire bouillir la marmite tous les jours,
c'est ça.
Parce que on a des projets avec des devis sur des commandes immobilières pour des tours de contrôle en Afrique, mais il faut que nos clients qui nous demandent les devis aient les affaires, et puis après il faut que les tours soient construites pour que les mobiliers soient installés, donc il se passe un peu de temps dans tout ça. Voilà.
Donc votre activité principale, c'est le désenfumage.
C'est le désenfumage au niveau de la fabrication des organes de commande. Donc c'est, je dis souvent, c'est les petits boîtiers rouges que vous avez dans le bas des cages d'escalier, mais c'est pas que ça. C'est les ouvrants de toiture. Donc aujourd'hui, on a un atelier de fabrication. On a aussi des réflexions avec l'université de Cergy et d'autres partenaires. Sur du développement de nouveaux produits liés aux nouveaux risques et notamment le problème des incendies dans les parkings souterrains avec les voitures électriques. Voilà. Aujourd'hui, on a des carnets de commandes qui sont pleins, même forts, qu'on a des fois un peu de mal à honorer parce qu'il y a un petit truc qui s'appelle le besoin en fonds de roulement qui est pas toujours simple à suivre. Hein, je parle à mes voisins.
Ouais.
Voilà, mais
c'est sans... bien quand même d'avoir un carnet de commandes.
Oui, oui, on a des activités qui vont bien, mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui, avec la remontée des taux d'intérêt, avec les financements sont quand même compliqués pour les PME et les TPE. C'est bien pour ça d'ailleurs que on voit des opérations de crowdfunding ou d'ouverture de capital sur des activités, chose qui il y a 10 ans ou 15 ans on arrivait à financer en crédit. Hein. Faut être clair, hein, les conditions ont changé. Voilà ce que je voulais dire.
C'est bien, écoutez, bravo. Donc, est-ce que on donne quand même vos coordonnées, Frédéric,
oui,
si on veut vous joindre?
Oui, alors, Frédéric Enfray, @madicob.fr. Dans les offres d'emploi, on recherche des gens pour notre bureau d'études de Madicob.
Très bien.
Donc, soit des gens qui sont sur les activités mécaniques, soit des gens qui sont sur les activités mécatroniques. Puisqu'aujourd'hui, on a des produits traditionnels qui sont mécaniques ou électriques, mais de plus en plus on va vers l'électrique avec aussi le confort, parce que quand on fabrique des ouvrants, des enfumages, on fabrique d'abord des ouvrants commandés à distance pour le feu, mais donc ils peuvent faire aussi autre chose. Et aujourd'hui, il y a des gros marchés de rénovation de bâtiments sur lesquels on est, avec la commercialisation de voûtes, notamment pour les parties industrielles, qui permettent de réduire la consommation énergétique du bâtiment, soit quand il fait froid pour pas réchauffer, soit quand il fait chaud pour pas refroidir.
Donc, un sujet d'actualité, complètement.
Tout à fait. Les périodes sont à la fois très intéressantes, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités, et à la fois compliquées à gérer pour les équipes, parce qu'il n'y a jamais eu autant de sujets et autant de contraintes. On peut parler administrativement de toutes les réformes avec la facturation électronique, avec tout un tas de choses. Et les services administratifs et informatiques sont quand même assez submergés par les temps qui courent.
Bien sûr, voilà. Bien sûr, oui, c'est le revers un petit peu de
tout
de
à fait. Et puis tout va 10 fois plus vite,
c'est ça,
qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Voilà.
Bon. Donc rendez-vous dans 10 ans pour un nouveau trophée.
Oui, mais j'aurais peut-être une casquette de retraité quand même, Jacqueline, ou de conseil dans une organisation, mais j'espère bien que ce serait plus en tant que dirigeant salarié du groupe.
En tout cas, félicitations pour cette distinction méritée, hein, qui reflète toutes les valeurs que vous véhiculez.
Surtout aux équipes, parce que on va dire que ce trophée m'a fait plaisir pour les équipes, parce que comme dans toutes les entreprises, les 3 dernières années ont quand même été pas un long fleuve tranquille, et je trouve que c'est une récompense pour les équipes, parce que le dirigeant, c'est jamais que le chef d'orchestre, c'est quand même les équipes qui font le taf, et pendant que je suis là avec vous, c'est eux qui bossent et qui ramènent du chiffre d'affaires, pas moi.
Ouais, mais bon, un bon chef d'orchestre dirige une belle équipe. Merci Frédéric. Alors merci à tous les 5 pour ces échanges très riches. La tradition veut que je redonne la parole à chacun d'entre vous. Je vous donnerai la parole en dernier, Emmanuel, si vous voulez bien. Donc je redonne la parole à Mithula et Niroshi. Un mot avant de nous quitter. Une minute.
Merci beaucoup de nous avoir proposé de venir et pouvoir témoigner du trophée et de notre entreprise. Ça nous donne toujours une visibilité supplémentaire. Donc merci à vous.
Je vous en prie, merci à vous d'être venu ce matin. Denis Tellier, un mot de conclusion.
Merci de m'avoir reçu déjà. Moi j'ai un petit message à faire passer, super court. C'est si vous avez envie de créer quelque chose, de créer votre boîte, lancez-vous.
Oui.
Et si vous réussissez pas, c'est pas grave, vous reviendrez à votre ancien métier.
Oui.
Mais vous n'aurez pas le regret de ne pas l'avoir fait.
De ne pas l'avoir fait.
Donc, faites-le, lancez-vous et puis n'ayez pas peur de l'échec en fait. Voilà.
Très bien. Un de mes invités, je crois la dernière fois, disait il n'y a jamais de bon moment pour créer une entreprise.
C'est ça.
S'il faut le faire quand on en a envie.
Exactement. Hein,
puisqu'on peut toujours dire la période et tout, mais non, c'est pas ça. Ben, bravo de l'avoir fait, Denis, et puis vous souhaite...
Après, advienne que pourra, c'est du travail, et puis voilà.
C'est ça, ouais, mais bon, quand on a une passion comme ça, c'est bien de pouvoir la faire vivre. Merci à vous. Franck Baruch.
Deux remerciements. Le premier, d'être ici... Et surtout d'être dans une zone qui n'est pas celle habituelle.
On est tout le temps là, comme mon voisin, en train de faire des entretiens ou bien de voir des clients. Donc, des moments qu'on maîtrise relativement bien. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est très bien, ça fait mal.
Vous l'avez bien maîtrisé.
Ça ne se voit pas du tout. Hein.
C'est pas grave, c'est bien. C'est peu fréquent et c'est très bien. Et le deuxième, là, je reprends un peu ce qui vient d'être dit. Effectivement, la création, c'est extrêmement excitant. Mm-hmm. Alors, il faut manger tous les jours.
Oui, c'est...
Donc, on ne peut pas que créer parce que sinon...
C'est pas un long fleuve tranquille, mais...
Mais la création, c'est très, très sympa. C'est très excitant. C'est rempli d'incertitudes. Et il faut mélanger la vision à moyen, long terme et la vision du quotidien où il faut manger.
Merci. Très bien. Bah, écoutez, pareil, on vous souhaite le même succès hein, pour votre écran dynamique. Frédéric, un petit mot de conclusion.
Sur la création d'entreprise, je veux dire que oui, il y a un taux d'adrénaline qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc ça, on s'en nourrit régulièrement, même aussi des nuits blanches des fois. Voilà. Sur le salon Effervescence, vraiment, faut venir. Hein, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. En plus, faudra qu'Emmanuel rappelle le coût et l'organisation, c'est ça, parce que c'est je crois que c'est 250 €, un truc comme ça.
Exactement. Oui, le coût est vraiment minime, surtout si on fait partie d'un réseau d'entreprises. La participation est vraiment très modique. En plus, comme vous le disiez, on repart avec son manche debout, donc on gagne une table. Mais surtout, on gagne aussi en visibilité, on gagne énormément de temps. Et puis on a
oui,
toute
c'est une grande famille.
On
vraiment.
Prend une énergie folle pour toute l'année en participant à ce salon qui est effervescent dans tous les sens du terme. Et donc aujourd'hui on a eu la chance d'écouter et d'entendre le témoignage de tous les lauréats de cette année et qui prouve bien en fait l'élan. Du 95 et qui sont vraiment tous labellisés Made in 95, ça va de soi, mais qui témoignent aussi par leur dynamisme, la création de tout ce qui se passe dans le Val d'Oise.
Emmanuel, tu as parlé qu'on repartait avec son manche debout, mais il ne faut pas oublier que dans le prix de l'inscription, il y a le repas compris pour deux personnes, donc il y a du manche tout court aussi.
Et c'était super bon.
Oui, c'est vrai.
Avec des produits faits par.
Made in 95.
Voilà.
Oui. C'est vrai. C'était...
Et ça, c'est aussi un moment hyper convivial, parce qu'on n'a pas insisté sur le déroulé du salon. Le matin est ouvert qu'aux exposants.
Tout à fait.
Donc en fait, on a le temps de se découvrir, on fait le tour, on regarde qui est là, qu'est-ce qu'ils font. Le midi, c'est on va chercher sa box et on mange à des tables
tous ensemble.
Ouais. Donc ça continue et après on a le salon et c'est ce format à la bonne franquette qui est huilé mais qui a la bonne franquette qui est hyper sympa avec toujours le fait que quelle que soit la taille des entreprises on est logé à la même enseigne
complètement
et ça je pense que c'est ça le succès.
Tout le monde est sur un même pied d'égalité et sur un même petit manche debout d'égalité, on pourrait
exactement.
Dire. et tout le monde, quelle que soit l'année de création de l'entreprise, son antériorité, sa taille, eh bien, tout le monde est sur le même pied d'égalité et se côtoie pendant toute cette journée. Mm-hmm. C'est vrai que ça crée vraiment des liens, vous l'avez tous dit, et ça donne de la visibilité aux entreprises, ça amène aussi des contacts et puis comme je le disais, une énergie aussi, le fait d'appartenir à un grand réseau et à une grande famille qu'est la famille des entreprises du Val d'Oise, ça rend plus solide aussi.
C'est vrai, ça reflète complètement ce que dit souvent Pierre Cuchely, que tous les réseaux s'entendent hein, dans le Val d'Oise.
Oui, et puis le dernier point, le salon est itinérant.
Oui, c'est ça.
Et ce qui fait que tous les ans, on découvre un certain nombre d'entreprises qu'on ne connaît pas parce qu'on n'est pas nécessairement de ce secteur-là.
Complètement.
Et ça, c'est aussi une opportunité. On peut avoir ça à côté de chez soi. Alors que ce soit à l'autre bout du département, on ne veut pas y aller, c'est une chose, mais quand c'est à côté de chez soi, on n'a pas de raison de ne pas y aller, quoi.
Et alors moi je voulais dire que c'est la première année que je réunis tous les lauréats parce qu'à chaque fois il en manquait un, donc merci à vous tous d'être là présents ce matin. Merci Emmanuel Détieux pour votre présence également.
Merci, j'étais ravie de vous avoir.
À très bientôt. Donc merci Francky pour la technique, merci à vous tous d'avoir été à notre écoute pour ce spécial lauréat effervescence.
Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez-la comme bon vous semble en podcast sur le portail de la radio 98.fr. Tout de suite, balade musicale avec Christophe Gavreau. Vendredi prochain, nouveau rendez-vous de l'économie en direct avec une nouvelle fois un thème consacré aux mentors et mentorés. Belle journée, prenez soin de vous et de vos proches. Thank you.